qui est diffusée tous les mercredis soirs 19h sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
CIBL 101,5 Montréal.
Vivre Montréal.
Dans la radio communautaire, parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur
d'onde. CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
Bonjour et bienvenue à tout le monde, à tous les trade-unionistes, trade-unionnais, trade-unionnois, noises.
C'est plus beau, noix.
Noises. Noise. Oui, beau. Les trade-unionnoises. Ouais. Puis j'ai des nouveaux trade-unionnoises. Hey, oui, c'est cute,
on invente
ça.
Des mots, c'est parti,
oui, devant moi. J'ai avec moi Guillaume Girard, qui est enseignant au Collège La Salle, pour nous parler du sujet dont il va être question. Et ensuite, j'ai Francis Bissonnette Kellig.
Gilker.
Ah, oh, Gilker. Excusez-moi, Monsieur Gilker.
C'est pas grave.
Votre nom m'a frappé, mais... Francis Bissonnette Gilker. Merci beaucoup d'être avec nous. Et évidemment, on a France avec nous, France Drouin.
Bonjour
pour
tout le monde.
M'accompagner dans cette tâche. Donc, on va passer du temps aussi avec Juliette Trolio, mais en deuxième demi-heure. Mais elle nous écoute présentement. Elle est dans sa boutique Eric Srac sur le plateau Mont-Royal et elle nous écoute. Juliette parcourt le monde afin de nous garnir sa mercerie qui s'appelle Rick Srax, comme je viens de le dire, pour offrir des boutons, des rubans, de la passementerie, des plumes, des fleurs, puis un tout autre garniture mode là, qu'on retrouve presque nulle part ailleurs. Puis ça, elle fait ça depuis 1987, toujours au même endroit situé au coin des rues Guilford et Saint-Hubert sur le plateau, comme je le disais. Donc, en studio avec nous, on a Guillaume Girard. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Ben, parce que tu es notre expert en mode ici. Tu es ici en tant qu'expert. Alors, présente-toi un petit peu.
Bien, bonjour tout le monde. Moi, je suis en fait enseignant au Collège La Salle depuis déjà 2 ans, enseignant en temps partiel. J'ai une formation en design de mode, un bac et un deck. Je complète présentement une maîtrise en sociologie de la mode. Je travaille sur...
Excuse-moi, là. Une maîtrise en sociologie de la mode.
Oui.
Hey, tu peux-tu résumer ça grosso modo? Ça m'intrigue.
Je travaille en fait sur comment on oublie souvent à quel point les vêtements font partie de notre vie au quotidien. Dans la production, je dirais académique là, sur le vêtement, on parle énormément des grands designers, des grands défilés de la mode qui somme toute inaccessible au grand public. Mm-hmm. Puis on oublie souvent de parler du fait qu'on porte des vêtements tous les jours puis ce qu'on porte n'est pas anodin. Mm-hmm.
Fait que c'est un ça peu, nous décrit.
Oui, mais ça ne fait pas juste nous décrire, ça communique, ça... Mm-hmm. Ça parle pour nous, ça nous fait sentir bien aussi. Il y a un aspect émotionnel à ce qu'on porte. Mm-hmm. Fait que j'essaie de comprendre un peu tout ça dans la vie des gens. Fait que,
le message qu'on veut transmettre dans nos choix, là.
Oui, puis le message, mais aussi comment on se sent... tu sais, le matin, on va travailler, là, puis on a une grosse présentation, là, puis on va se mettre un beau saut, puis quelque chose dans lequel on se sent, là,
le
puissant,
fameux rouge,
machin,
là, pour les
chouette.
Avocates, par exemple.
Oui,
là.
Entre autres, c'est ça. Fait que c'est tout ce genre de choses-là que j'essaie de comprendre dans ma maîtrise. Mm-hmm. Fait que j'ai un parcours un petit peu bigarré, mais c'est... la mode est toujours faite partie de moi.
Ben, c'est ça. Ben, je pense que c'est le propre de notre génération. Ben, pas de la tienne. Toi, t'es tout jeune, là. T'es un... Moi, je suis vieille, mais on fait plusieurs choses, mais toujours dans le même coin, là, tu sais, parce qu'on ne connaît pas, quand on est jeune, tout ce qui peut être possible dans nos vies, tu sais. Mm-hmm. On n'a pas d'idée, on y va vers les chemins déjà connus, mais bon. Et puis, on a également, donc, Francis Bissonnette. Hey, je...
Gilker.
Gilker, c'est fou. Je pense que je commence à être Alzheimer, moi, là. Donc, tu es de l'équipe qui forme l'ensemble des collaborateurs chez Henri Henri.
Oui.
Ce sont messieurs Honorius Henri, hey, c'est-tu assez cute? Honorius Henri et Jean-Maurice Lefebvre qui ont ouvert la compagnie en 1932. Ils travaillaient ailleurs avant, chez un autre chapelier, je pense.
Oui, bien, en fait, M. Henri et M. Lefebvre Lefebvre se sont rencontrés. Ils travaillaient les deux chez Eaton au rayon des chapeaux.
Ah, chez Eaton?
Oui. Et puis, ils ont parti la business Henri-Henri une fois qu'ils ont été approchés par la compagnie Brock, qui était une compagnie...
Ah, c'est ça que je lisais dans l'historique.
Oui. Donc, la compagnie Brock, elle a proposé à M. Henri et à M. Lefebvre de partir une business. Ils allaient financer la fondation, l'achat du magasin, des présentoirs, etc. Mm-hmm. Et en échange, Henri-Henri allait vendre... exclusivement des chapeaux de la marque Brock. Mais Henri-Henri a survécu à la marque Brock et donc ils sont devenus indépendants et ils sont partis en affaires ensemble. Mais enfin, la business était déjà là. Cependant, ils sont ouverts à des marques prestigieuses qui étaient... Qui a beaucoup étendu leur pool de clients.
Qui sont toujours là.
Oui, y a beaucoup de marques qu'on tient depuis les années 40, puis on n'en dérive pas. La compagnie Brock, bien évidemment, on n'en tient plus. La compagnie a fait faillite.
OK. Mais donc, ils ont ouvert ça en 1932, ici sur Sainte-Catherine. Ils ont déménagé pas trop loin à travers les années. Puis, moi, je trouve que quand on entre là, on a l'impression de pénétrer dans une institution vraiment. On sent l'histoire, on sent, c'est représenté partout. Puis, il faut que je vous explique pourquoi on a décidé de parler de ces métiers-là, les métiers des commerces qui ont traversé là, au 21e siècle. Parce que j'ai entendu Juliette dire qu'elle souhaitait que Rick Strax lui survive au même endroit puis pour la même offre. Puis j'ajoute que... parce que je l'entendais dans ses commentaires, là, pour plusieurs années encore. Puis ma crainte de voir partir ces institutions-là, comme Henri-Henri, comme Rick Strax, comme ailleurs, donc ces entreprises artisanales, si on peut dire, qui offrent une spécialité, une exclusivité, ça m'a rendue inquiète ou peut-être même nostalgique. Je pense aux cordonneries qu'on visitait avant très régulièrement. Aujourd'hui, on le fait moins, puis elles ferment une après les autres. On y allait pour faire ressemeler une chaussure, une botte, pour un coude là, pour changer ou renforcer une ganse d'un sac. Il y a même certaines quincailleries qui ont gardé l'allure de la boutique Ollivander située dans le chemin de traverse Harry Potter. C'est exactement ça quand on entre dans la quincaillerie, d'ailleurs. J.L. Lavoie, c'est comme faire un voyage dans le temps. Les étagères en bois puis les prix produits écrits à la main nous font sentir comme dans un magasin général. C'est administré de père en fils depuis trois générations. Le commerce existe depuis 102 ans au même endroit sur la rue Centre, à quelques pas de la station de métro Charlevoix. Robert Lavoie raconte que dans la presse du 22 octobre dernier, que son grand-père, qui était vétérinaire, soignait les chevaux en arrière, puis il a ouvert le commerce en sideline, la quincaillerie. J'imagine qu'il avait besoin de quelques objets pour ferrer les chevaux, peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est M. Benoît Lavoie qui a acheté la bâtisse en 1921. Le lieu rappelle le passé équestre de Pointe-Saint-Charles. Il y a une clôture qui... C'est assez beau, vous devriez aller voir ça, franchement, là. Parce que c'est beau, ce coin-là de Montréal.
Dans quel coin?
Pointe-Saint-Charles, oui, ben près du métro Charlevoix.
J'ai resté sur Marlins.
Ah, ben oui, c'est dans ce coin-là. Ouais. Mm-hmm. Il a payé le tout, dans le temps, 700 $
Hein? on n'est pas aujourd'hui, hein?
Non, c'est pas ça. Puis là, ben c'est ça. C'est pour ça qu'on a Guillaume avec nous, Juliette tantôt, puis Henri-Henri. Puis on va y aller avec une petite musique pour partir ça, là, les chapeaux.
Achetons chez nous mes bons amis. C'est meilleur pour l'économie, pour l'épicerie, la librairie, c'est qui? La petite boucherie, IGA Maxi et chez Costco. Les paniers sont gros, bien plus gros que ce qu'ils payent en impôts. Mon petit épicier va peut-être fermer parce qu'il est beaucoup trop endetté. Achetons chez nous, mes bons amis, c'est meilleur pour l'économie, pour la quincaillerie, la boulangerie, l'épi, la mercerie, les chéris mini. Et chez Walsmart, ils sont-tu fins? Ils cachent leurs profits dans des paradis loin, loin. Nos petits commerces de proximité vont peut-être fermer. Sont plus capables de payer leur loyer. Achetons chez nous, mes bons amis. En cette période, restons unis. Pour la cordonnerie, les vrais taxis, la poissonnerie, la fromagerie. Achetons chez nous, mes bons amis. En cette période de pandémie, pour nos fermes bio, nos microbrasseries, marchés virtuels, nos mielleries. Excusez-moi si j'en oublie, je souffre peut-être un peu d'amnésie. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais les restaurants et les garages aussi. Les coiffeuses, c'est ma TV. Les chaussures, l'animalerie. Abbey Road Studio.
Les tunes de chapeau, ils vont s'en venir tantôt. C'était la tune qui disait qu'on doit avoir ces petits commerces-là. Ces commerces-là qui, pour moi, je ne sais pas vous autres, c'est l'âme d'un quartier.
Tout à fait.
C'est pas les Dolorama puis les Starbucks qui font en sorte qu'on se promène sur Wellington, sur Mont-Royal, sur Saint-Denis. Non.
Mais non, c'est comme c'est tous les petits quartiers locaux. Moi, quand je. Moi, j'habite à Verdun, là, c'est quand je vais chez Copette que j'ai du plaisir, pas quand je passe devant le PFK, tu sais, c'est...
Non, non.
J'ai dit parce que le PFK a fait un grand scandale sur le groupe Facebook du quartier dernièrement.
Ah bon?
Ben oui, les gens en parlent, ils étaient pas contents, là, tu sais. Mais c'est pas ça qui fait l'âme d'un quartier.
Non,
t'sais.
Pas en tout. C'est grâce. À... En fait, Copette, en fait, on en revient. Il a ouvert la porte, si tu veux, à tous ces commerces-là. C'est le premier qui a ouvert ça. Puis la rue Wellington, là, est habitée. Les gens s'y promènent. Il se passe quelque chose. Ah, t'es quoi? Puis donc, moi, je trouve que c'est ces endroits-là où on est connu, puis que les gens sont reconnus quand tu rentres là-dedans. Ah, salut! Tu sais, ton visage, il me dit quelque chose. Bien, c'est ça. La dernière fois que je suis entrée chez le chapelier Henri-Henri, là, j'y viens. Il y avait un homme d'un certain âge, je pense que tu étais là, Francis, à l'allure fière, dans son complet sombre et rayé, pareil comme dans les années 50, 60.
Oui, oui. Ouais, ouais.
À l'aide, donc, il attendait pendant qu'on ajustait son couvre-chef avec une machine quelconque, régulièrement utilisée, j'imagine. Puis là, il était là, dehors, en train de fumer sa cigarette. Puis il y avait des gens à l'intérieur qui faisaient d'autres choses. Puis il y avait des gens au service. Puis il y avait une vie qui se passait. Il y avait, comment dire, une mise en scène, on dirait. Mais c'était ce monsieur-là qui m'a vraiment frappé. Tu dois t'en souvenir, parce qu'il était tout près de nous. Puis, ben là, ça, c'était l'étape finale de la... J'imagine, après l'achat d'un chapeau. Qu'est-ce que c'est que cette étape-là?
Excusez-moi. En fait, c'est que tout va dépendre si la personne a acheté un chapeau fait sur mesure, donc une création qu'on a faite pour lui de A à Z, ou si la personne achète un chapeau prêt à porter. Dans ce cas-là, on doit constamment faire des ajustements parce que les compagnies qui font du prêt-à-porter, elles ont des moules qui ont une forme précise, étendues dans différentes sizes. Mm. Par contre, la forme ne correspond pas nécessairement à celle du crâne. Et nous, il faut un peu comme on fait faire un bord de pantalon. On va ajuster en faisant des rembourrages pour resserrer un chapeau qui est trop grand à certains endroits.
OK. Donc,
pour ajuster la taille. La machine que vous parlez, qu'on met sur la tête, celle-là, c'est un conformateur. Cette machine-là me dit que la personne qu'on a vue cette journée-là, donc, elle était là pour du chapeau custom et, ou du chapeau sur mesure, qui est notre nouvelle branche de l'entreprise. Mm-hmm. Donc, le conformateur sert à nous permettre de tracer le dessin du tour du crâne de la personne afin qu'on puisse sculpter une ouverture dans le chapeau, que le chapeau soit formé autour de la forme de la tête du client pour un confort optimal.
OK.
Donc, c'est une avenue qui prend beaucoup plus de temps, le chapeau custom, je pense.
Puis là, ça a fait en sorte que le monsieur a eu un beau chapeau.
Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut.
De l'orchestre Van Hoff quelque chose. Le premier chantait mon beau chapeau, vous l'avez deviné, puis vous avez un beau chapeau pour la deuxième orchestre. Mm. Donc, on a parlé de l'historique de Henri. Qui travaille chez Henri? Quelle est cette fourmilière?
Alors, en ce moment, on est... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de monde qui travaillait chez Henri, puis c'est un beau signe pour nous. On a quelques old-timers. Je vous dirais, un de mes collègues, M. Louis, qui est dans les 80 avancés, et moi, on a commencé à peu près la même année au magasin. On est là depuis plus longtemps que les propriétaires actuels.
Sûr, hein?
Oui. Donc, qu'est-ce qui va se passer chez Henri? En fait, en même temps, il va y avoir du développement du site web, qui est quelque chose qu'on a commencé pendant la pandémie. Mm-hmm.
Il est beau, votre site.
Bien, merci beaucoup. On travaille très fort dessus. Si vous voyez une lettre écrite sur le site web, c'est Bibi.
Ah bon?
je m'occupe pas des images, mais tout ce qui est texte, ça vient de moi. Sinon, ce qui va se passer, c'est beaucoup la vente. C'est notre source de revenus principale. Donc, la plupart des employés qui vont être là pendant un shift s'occupent de faire de la vente. Donc, mm-hmm. Connaître les produits de façon... connaître le produit en profondeur et ça demande de l'entregent aussi pour essayer de cibler les besoins du client, faire des jugements sur quel type de produit semble mieux convenir selon la palette de couleurs qu'on voit, l'habillement qu'on voit, etc.
Donc, puis la physionomie.
Exactement. Donc, c'est des choses qui ne sont pas étrangères à tout le monde qui travaille dans l'industrie.
C'est bon pour ta maîtrise.
La vente de vêtements. Là, on veut tous faire ça. On veut essayer que nos clients trouvent qu'ils sont swell puis que ça leur va bien. Sinon, dans l'atelier, il y a mon collègue, M. Sylvain, qui travaillait auparavant... pour le Cirque du Soleil, dans le département des costumes, et qui a fait sa formation à la Maison Michel en France, qui est très réputée dans le monde du chapeau.
Ouais.
Lui, c'est un peu c'est le maître à bord dans l'atelier. C'est son royaume. C'est lui qui va faire les nettoyages de chapeaux, qui va les remouler, qui va faire des rapiècements, qui va faire des réparations, tout ça. Et c'est lui qui va consulter les clients pour un projet de chapeau personnalisé. C'est lui qui va piloter cette opération-là de A à Z. C'est lui qui va construire. C'est lui qui va prendre le temps de parler avec le client ou la cliente pour cibler ses besoins puis essayer de voir comment on peut faire que ce projet-là
Ah, je pensais que c'est ceux qui étaient à la vente, mettons, mm-hmm. je ne sais pas, c'était la première rencontre, mais finalement, pas nécessairement. Ils sont dirigés vers cette personne-là tout de suite.
Ce qui, en fait, la plupart des gens qui vont acheter un chapeau, ils vont l'acheter dès leur première visite. C'est parce que la grosse partie de notre entreprise, c'est le prêt-à-porter. Cependant, mm-hmm. On a rencontré beaucoup de succès dans notre projet pilote de chapeaux sur mesure, puis là, c'est maintenant une partie établie dans l'entreprise. C'est assez nouveau, mm-hmm. le chapeau sur mesure.
Oui, mais là, avec Tire le coyote, salbarde, on voit que mm-hmm. le chapeau est de mise, même mm-hmm. Pilou. Oui,
c'est vrai.
Il y a beaucoup d'artistes, en tout cas, qu'on voit.
Nous aussi.
Même...
ben, souvent, même, je pense, pour souvent, mon on job. Les accueille pour les conseiller dans... Mm-hmm. dans le choix d'un chapeau.
Puis ça, est-ce qu'ils sont dans le exclusif à ce moment-là, ces gens-là?
Ils vont avoir accès exactement au même choix de marque. Mm-hmm. Nous, on essaie de traiter tous nos clients comme des VIP. Là. Mm-hmm. Donc,
c'est bon, ça.
Des artistes, des vedettes se sentent bien à l'aise, mais on fait pas un fromage à chaque fois qu'il y a une célébrité. Les gens aiment bien la courtoisie, l'anonymat, mm-hmm. puis, mm-hmm. tu sais, on essaie de le faire discrètement si on veut signifier notre appréciation à une vedette qui vient ici. Là. Mais on essaie mm-hmm. de pas faire... c'est comme chanter « Bonne fête » à quelqu'un dans un restaurant.
Non, c'est ça. On veut pas ça. J'ai vu l'autre fois, c'est, par hasard, la semaine dernière, un vidéo, c'est pas toi qui as mis ça, un vidéo sur un papa qui montre à son fils comment fabriquer un chapeau. Et là, j'ai vu toutes les étapes parce qu'il montre à partir du moment qu'il prend la mesure jusqu'au taillage, c'est un chapeau de feutre. Mm-hmm. Et là, j'ai vu comment il formait cette espèce, comment on appelle ça, cette espèce de chapeau qui est un peu à la Indiana Jones.
Ça fait partie de la famille des chapeaux Fedora.
OK, c'est ça.
Le chapeau d'Indiana Jones, oui. Mm-hmm. C'est vraiment le type de chapeau qui est le plus recherché, le plus vendu. Mais le mot Fedora, de la même façon que je dis automobile, ça peut décrire beaucoup de petites variations dans les formes qui changent complètement le style.
Oui.
Donc, le style Fedora, c'est le style le plus connu, puis il y a des bords larges, des bords courts, des couronnes hautes, des couronnes basses. Il y a vraiment plein de façons d'en faire des variantes. Donc, la grosse majorité des chapeaux qu'on voit sur la rue, c'est une forme ou une autre de Fedora.
De Fedora.
Ouais.
Puis, donc, la hauteur, j'imagine, de... Comment on appelle
pas
ça?
Pas mal tout le temps, 4 pouces.
OK, mais comment on appelle ça, la partie à partir du front, là,
ouais,
puis jusqu'au sommet?
On met la tête dans la couronne.
Dans la couronne.
Oui.
OK.
Et c'est le bord qui va nous protéger du soleil et des intempéries.
Non, puis je regardais même des extraterrestres. Ah, bien, des extraterrestres. des... Non, des archéologues, je ne sais pas quoi le rapport, mais en tout cas, à découverte la semaine dernière, puis je disais à Yvon, c'est le chapeau idéal parce qu'il couvre bien la nuque, mm-hmm. il couvre bien, c'est mieux qu'une casquette, les oreilles sont protégées, tout est protégé.
Le chapeau d'Indiana Jones est effectivement bien choisi pour une personne qui passe beaucoup de temps dehors puis dans des environnements divers. Le chapeau de feutre, on le voit qu'Indiana Jones y suit beaucoup là, quand il porte dans la jungle ou dans le désert. Mais c'est un chapeau qui lui apporte de l'ombre dont il a absolument besoin et qui est... pour un chapeau qui est capable de se faire rouler dessus par un tank puis de vous protéger des coups de soleil, ça prend quelque chose de durable. Mm-hmm. Le feutre est tout parfait pour ça. Puis la forme, effectivement, qui descend à l'avant du visage puis qui descend sur la nuque... qui est vraiment typique du chapeau d'Indiana Jones, c'est vraiment la forme optimale pour maximiser la zone d'ombre pour une quantité de feutre donnée.
Il y avait une question qui allait avec ça, parce que là, on voyait le chapeau de feutre, puis je vois très bien comment le feutre... Hey, là, je sais pas si ça vaut la peine de regarder ça. Je pense que je vais mettre le lien sur la page de Trait d'Union. On voit comment il le chauffe avec des fers très chauds pour comme l'humecter pour pouvoir mieux le manipuler.
Ça prend beaucoup de vapeur aussi.
Oui, c'est ça. Oui. Puis, c'est ça, ça retournait sur le bidule, ça ressortait, ça retournait sur le bidule, ça ressortait. Combien qu'il y a d'étapes comme ça?
Ça va dépendre de chaque chapeau. Mm-hmm. C'est des questions que mon collègue Sylvain serait peut-être un peu plus capable de vous répondre dans le grand détail. Cependant, si je peux faire un parcours rapide de la vie du chapeau, et c'est sûr que d'abord, il faut sourcer la fibre qui va faire le feutre. Donc, est-ce qu'on va la prendre sur un mouton, sur la fourrure du lapin ou sur la fourrure du castor?
Pas le lapin.
Ça, c'est une grosse... Henri, c'est pas vegan.
OK. J'imagine, il y a du cuir aussi, hein?
On est dans le cuir et dans le feutre, là. Mm-hmm. C'est notre industrie.
Mm-hmm.
Une fois qu'on a choisi le type de fibre, il faut le transformer en feutre. Et généralement, il y a beaucoup de compagnies qui vont faire exclusivement ça, transformer de la fibre en feutre. Ensuite, il faut, une fois qu'on a, mettons, notre tuque de feutre, qui est comme une forme de cloche de base, c'est cette forme-là qu'on va couper, qu'on va remouler pour avoir une première forme rudimentaire du chapeau qu'on va faire. Ensuite, on va peut-être commencer à placer des composantes structurelles comme la bande de cuir, à l'intérieur, la doublure à l'intérieur aussi, avant de procéder à un moulage final.
Okay.
Et puis après ça, à des retouches de finition.
Mon Dieu, je vais vous le mettre, faut regarder ça. Puis en plus, bon, il y a la musique qui est agaçante, là. J'aurais aimé mieux entendre le bruit des choses. Le vocabulaire, est-ce qu'il est... il est grand dans ce métier-là?
Il est grand, puis
parce
il est
que
pas
y a,
constant.
Parce qu'on joue au Scrabble, on a besoin de, pour faire des points, là.
Ben voilà, il y a toutes sortes de mots, comme ne serait-ce que l'anatomie du chapeau, faire la différence entre le bord et le rebord, le ruban et la bande. Est-ce que c'est à l'intérieur du chapeau ou est-ce que c'est à l'extérieur?
Mm-hmm.
Ensuite, ce qui est le plus difficile, c'est de naviguer les différents référents culturels pour parler... des formes des chapeaux. L'exemple le plus flagrant qu'on a, c'est quand j'ai un client d'origine européenne ou un client qui est né au Québec qui me demande un béret, il ne me demande pas la même chose.
Oh non.
Un client français qui me demanderait « je peux voir un béret », eux autres, ils vont plus penser à ce que nous, on appelle la casquette de taxi ou la casquette de newsboy ou la casquette, la casquette qui est plate avec une visière, mais qui est un peu comme entre un béret et une casquette. Tandis que chez Henri, puis dans la communauté linguistique de Montréal, en général, le consensus est plus, on va dire casquette quand il y a une visière rigide, puis on va dire béret quand il n'y a pas de visière rigide. Mm-hmm.
Ouais.
Donc, ce qu'on voit comme le béret français ou béret
basque.
Oui,
c'est ça, avec la baguette en dessous.
Dans notre parlure, c'est ça un béret. Puis dès qu'on a quelque chose de rigide, c'est une casquette. Tandis qu'ils utilisent le terme indifféremment en France et qu'il y ait une visière ou pas. Donc, quand c'est un client français, je leur demande toujours s'ils veulent une visière.
OK. Hey, là, j'abuse. France et Guillaume, avez-vous des questions rapides? Il reste 3 minutes et quart.
Ben, je vais rentrer dans un autre sujet, mais plus après. Je ne veux pas poser une question là maintenant. Je ne sais pas, je vais la passer plus tard.
On n'aura pas le temps. Non.
Ben, en fait, moi, ce que je voulais poser comme question, c'est que la mode, c'est sûr que ça a évolué. Mais là, je pense surtout à aujourd'hui, maintenant, avec l'empreinte écologique, comment se comporte la mode?
Ah, on en revient après ça.
OK, ma question.
Ah, OK.
C'est pour ça que je ne voulais pas comme rentrer trop dans le vif du
sujet. Par
rapport
au chapeau, là.
Oui,
moi, je serais curieux, là. Je trouve ça super intéressant parce que tu parlais tantôt, Francis, de l'aspect... protection du chapeau d'Indiana Jones. Puis juste avant, on parlait un peu là, de plus de l'aspect de parure, en fait, des célébrités qui vont se faire des chapeaux le plus sur mesure ou des choses comme ça, qui plus pour aller à des événements ou pour dans le cadre de concerts. C'est quoi la fonction actuelle que vous voyez le plus dans vos clients, tu sais?
Pour l'achat d'un chapeau?
Ouais.
En fait, les gens redécouvrent un peu... En même temps, l'aspect esthétique et l'aspect fonctionnel du chapeau, si je peux dire rapidement, c'est vraiment dans les années 70 qu'on a vu que le chapeau a été complètement désaffecté par les jeunes qui favorisaient de plus en plus des coupes de cheveux qui n'étaient pas comme « the man », donc des grosses coupes de cheveux bouffantes. Puis avec l'avènement du spray net, du gel...
Non, ça ne marchait pas.
Ça a
là.
Été des années très, très, très sombres pour la chapellerie, mais la marque Kangol était là pour nous permettre de rester à flot.
Oui, c'est vrai.
Oui, la mode hip-hop a vraiment servi à garder Henri à flot pendant des années. Mais depuis le début des années 2000, c'est là que je voulais en venir, on voit beaucoup que les jeunes ont recommencé à s'intéresser au chapeau. À l'époque, on me demandait beaucoup des petits Fedora comme Michael Jackson ou Justin Timberlake portaient à l'époque. Puis il y a comme une espèce de... À chaque 5 ans, il y a comme une série qui lance un revival d'une vieille culture vestimentaire qu'on a désaffectée. Fait qu'on a vu 2-3 phases de cowboy revenir. La phase en ce moment qui est associée
c'est
à Yellowstone
est
vraiment très forte. Ouais. Puis
quand il y en a chez Canadian Tire,
cette année, on n'a jamais commandé ni autant vendu de chapeaux de cowboy. Là. C'est la
fou,
folie furieuse.
Ouais.
Tandis que dans d'autres années, c'est plus les casquettes de Peaky Blinder qui vont. Ouais. être populaire ou... Voilà, donc les modes reviennent beaucoup.
Hey, écoute, ça fait une demi-heure qu'on jase, c'est fou, hein? Et puis, ben là, on s'en va à la pause, puis on va revenir avec Juliette, elle va être au bout du fil. Et puis, on va peut-être encore parler un peu de chapeau, mais on va certainement parler de mercerie.
Vite, dépêche-toi, le bingo de CIBL commence.
J'arrive. Bon, je pense que j'ai tout, chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi.
OK, mais les cartes?
Quoi, les cartes?
Ben, les cartes de bingo.
Oh, non, j'ai complètement oublié.
Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes.
Si vous avez des envies d'ailleurs, retrouvez-moi, Leïla, au micro d'Escale. Au rendez-vous, l'actualité musicale, des découvertes, mais aussi de grands classiques. De l'afro-funk aux sonorités caribéennes, en passant par la samba et le jazz. Laissez-vous transporter par un tour du monde en musique, tous les samedis à 9h sur CIBL 101.5.
Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous tous les lundis à partir de 10h pour prolonger l'été sur les Sentiers des Battus. Une série de balados réalisés à travers le Québec et qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis à bientôt sur les Sentiers des Battus.
Allô, Juliette! Allô, Juliette!
Oui, bonjour!
Bonjour! Tu es avec, oui. Tu es avec nous sur les ondes de Trait d'Union. On a Juliette Trolio de Rixrax qui est dans sa boutique. Elle est là en train de travailler puis d'être avec nous en même temps. On est tous ensemble chez Rixrax en ce moment. Merci beaucoup d'être avec nous.
Bienvenue, ça me fait plaisir.
Puis, avant de poser plein de questions, j'aimerais ça entendre, vous faire entendre et te faire entendre un petit quelque chose.
OK.
Ça casse. Eh bien oui, c'était ta caisse, qui paraît-il est la vedette de ton entreprise, là. C'est ce que tu disais dans
ta
un...
Ta caisse populaire.
Ta caisse populaire, oui.
Oui, depuis 1882.
Depuis 1882.
Non, ma caisse, elle est existante, son âge... Elle est de 1882.
Oui, ça fait qu'elle a plus de 100 ans. Elle a 100... Mon Dieu, je ne suis pas bonne en calcul, moi. Eh, Seigneur. Écoute, Rixrax...
Elle date de 1882, c'est ça
que
je veux dire.
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Elle est belle, elle est toute argentée, elle fait un bruit typique. Rixrax, donc, a pignon sur le coin des rues Saint-Hubert et Guilford depuis 1987. Puis... Oui, puis c'est après t'avoir entendu parler de ta crainte de voir disparaître X-Rax que l'importance de parler de ce type de commerce m'est apparue comme étant nécessaire. J'ai une série de questions pour toi, mais je suis sûre que mes acolytes ici en ont également, mais je vais commencer tout de suite avec, maintenant que ton neveu Roberto est dans l'équipe, est-ce que tes craintes se sont dissipées pour la survie de X-Rax?
Okay. Bon, écoute, Roberto, mon neveu, qui a travaillé avec moi pendant 11 ans, écoute, c'est sûr qu'avec lui, on a fait plein de choses ensemble, mais lui, c'est un créateur de vêtements, c'est un designer, il vit à Los Angeles. Alors, au beau soleil...
Ah, il vit à Los Angeles?
Oui, il est à Los Angeles et il s'est spécialisé dans la robe corset. Bon. Alors, pour ce qui est de venir vivre à Montréal et reprendre X-Rax, on ne sait jamais la vie, là.
Ouais. Mais ça ne sera pas avec lui, peut-être.
Je ne pense pas. Je pense pas. Mon neveu, là, je ne pense pas. À moins qu'il arriverait quelque chose d'inattendu pour lui dans sa vie, puis qu'il reviendrait à Montréal, puis qu'il continuerait avec X-Rax. Mais ça me surprendrait beaucoup. Alors,
dommage.
Ça veut dire que faut que je continue le plus longtemps que la vie le veut et que ma santé le veut. Mais pour le moment, tout va bien.
Bon.
Mais tout ce qui peut m'arriver un jour, c'est qu'il y ait quelqu'un qui m'offre un montant d'argent.
On ouvre la porte, on annonce ça, là. Quelqu'un veut avoir une mercerie. D'ailleurs, c'est quoi une mercerie, Juliette?
Bon, une mercerie, c'est un endroit où il y a évidemment des boutons, du fil, des aiguilles, du ruban, de la dentelle, boucles de ceinture. Moi, j'ai ajouté les plumes, les fleurs de soie. J'ai
des accessoires.
Oui, j'ai ajouté la chapellerie. Tu sais, j'ai ajouté de la décoration intérieure parce que, bon, disons que c'est préférable d'avoir beaucoup de choix que d'avoir juste un créneau de gens. Mm-hmm. C'est beau mieux avoir une clientèle variée pour être capable d'en vivre aussi.
Mm-hmm.
C'est ça une mercerie en fait. C'est vendre des objets aux gens qui font de la création. C'est des artisans. En fait, c'est beaucoup des artisans.
Puis je trouve que la mercerie arrive comme il faut dans le temps, même si c'est un métier qui existe. D'après toi, la mercerie, là, c'est un genre de boutique qui existe depuis combien d'années?
Je pense que ça existe depuis...
Depuis qu'on fait des robes?
Là, ça a toujours existé, là.
Ouais.
Mais peut-être que la mercerie en tant que telle,
la boutique,
là, qu'on a appelé ça mercerie, mm-hmm. ça a dû commencer au début des années, je dirais, peut-être après la guerre.
Mm-hmm.
Peut-être après la guerre.
Mm-hmm.
Parce que...
C'est chez les modistes qu'on trouvait ça.
C'est ça, parce que avant c'était des couturières privées, tandis que je pense que mercerie, là, ça a dû commencer après la guerre, parce que l'industrialisation a fait que, justement, c'est ça, c'est le bouton est devenu très, très industrialisé. Je pense que c'est après la guerre, ouais. Je pense que oui.
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 Non, mais ce que j'allais ajouter, c'est que là, c'est... on sent que c'est un métier qui est une boutique, un style, un commerce qui existe depuis plusieurs dizaines d'années. Mais là, avec la planète qui est essoufflée puis qui nous envoie des messages assez clairs, merci, est-ce que l'importance de faire durer la vie d'un vêtement a fait en sorte que les propositions pour ajouter à leur longévité se sont accrues? Ce que t'offres, là, finalement, c'est de... peut-être de faire survivre un vêtement en le modifiant, en le transformant, en le bonifiant?
Tout à fait, tout à fait. Et c'était déjà commencé avant la pandémie, mais mettons que pendant la pandémie, ça a accéléré. Et puis, je pourrais dire que maintenant, oui. Environnement et tous les jeunes se sont remis à faire de la couture, récupérer des vêtements, c'est revenu vraiment, vraiment beaucoup plus qu'avant. Je dois l'avouer, oui.
Là, je ne voudrais pas prendre toute la place parce que j'ai préparé 12 millions de questions, puis il faut que je laisse la place à mes gens qui m'entourent. France, tu avais une question à ce niveau-là.
Bien, c'est exactement la question que je posais tout à l'heure au niveau de la trace écologique. Comment la mode va pouvoir survivre là-dedans, parce que, étant donné que la mode, c'est réinventer un vêtement, c'est d'avoir des nouveaux tissus, est-ce qu'il y a une place au recyclage dans votre façon de concevoir la mode maintenant? Moi, j'ai un vieux vêtement chez moi que je vais prendre pour une occasion, puis justement, je vais aller te voir à ta boutique parce que les deux boutons ne sont plus beaux, ils sont plus bons, voilà. Ils collent, je ne sais pas, comme tissu. Ouais. Et j'aimerais aller me chercher deux beaux boutons pour refaire mon vêtement. Alors, je me demande, ma question, justement, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'empreinte écologique et du recyclage?
Oui, bien justement, j'ai beaucoup de clientes qui viennent avec leurs vêtements qui on recherche des boutons, on met des nouveaux boutons et ça ajoute toute une deuxième vie aux vêtements. Là. Ça, c'est évident. Là. Ça change complètement aussi. Un bouton, c'est un accessoire hyper important sur un vêtement. Là. Non, il est utile. Il est non seulement utile parce qu'il attache, mais il est aussi un accessoire
comme un bijou
qui embellit.
Ouais.
Tu sais, ça embellit un vêtement, ça le stylise aussi. Parce que chaque personne va avoir la même blouse. Mettons, plusieurs personnes vont venir avec la même blouse, personne ne va prendre le même bouton.
Exact. Ouais. Ouais, ça m'est déjà arrivé de changer les boutons d'un veston parce que ma mère en avait en écaille, en écaille de coquillage, je ne sais pas trop, puis c'était super beau sur un vêtement, tu sais, en acre.
Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de boutons en acre, c'est magnifique, j'adore le bouton en acre, c'est un des boutons favoris.
Ouais.
J'ai plusieurs modèles. Et aussi, il n'y a pas que le recyclage, il y a le recyclage, oui, évidemment, qui est devenu très important, mais les gens qui achètent un vêtement dans les magasins, là, le bouton qu'ils mettent dessus, là, bien souvent, il n'est pas très intéressant. Là.
Non.
Un bouton de plastique quatre trous là, ou un bouton bien ordinaire, là, je veux dire, plate, même pas de la bonne teinte. Tu sais, une belle veste blanche, tantôt, il y a une dame qui est venue, une belle veste blanche, ils mettent des boutons en plastique brun. C'est quoi, là? Fait que là, ils viennent avec leur veste, puis on regarde. J'ai sorti des super beaux boutons en or, justement, qui font que la veste est plus facile à porter avec plusieurs vêtements. Là, t'sais, on ne voit pas juste le bouton. Là.
Ah oui, c'est
il s'intègre. Le bouton, il doit s'intégrer dans le vêtement.
Tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Ben, merci.
Guillaume,
mais c'est important quand les gens viennent avec leurs vêtements. Parce que j'en ai beaucoup. Et moi, je peux sortir des modèles. Parce que les gens, ils ne peuvent pas tout voir. Okay. Il y en a beaucoup, à moins que ce soit quelqu'un qui est vraiment habitué puis qui est dans la couture toujours depuis longtemps. Mais sinon, c'est préférable d'apporter le vêtement, non seulement pour la teinte et pour la couleur, mais pour la grandeur de l'ouverture. Ça, c'est très important. Parce que les boutons, ils ont des grandeurs puis ils ont des épaisseurs.
Ouais. Ben, j'en prends note quand je vais aller te voir.
OK. Oui, là, on a Guillaume avec nous. J'aimerais ça que... Ben, je pense que Guillaume aurait des questions pour toi.
Mais moi, j'ai une question super intéressante parce que je trouve ça intéressant qu'on parle, en fait, de l'aspect un peu écologique. Puis tu me disais, il y a beaucoup de depuis la pandémie, t'as beaucoup de nouveaux clients qui viennent, entre autres, pour parce qu'ils veulent allonger la durée de vie de leurs vêtements. Je pense aussi avec l'avènement du vintage, où est-ce que les gens s'habillent dans les friperies, nécessairement, ils vont vouloir des fois actualiser un certain vêtement avec des nouveaux boutons. Je serais curieux de comprendre, parce que moi, je connais ta boutique parce que quand j'étais étudiant en design de mode, je venais chercher des boutons. J'ai d'ailleurs des très beaux boutons en acre que j'avais mis sur une veste que j'avais achetée chez vous. Décris-nous un petit peu ta clientèle. C'est quoi la proportion de ces gens-là qui rêvent d'en faire une carrière? Ou je pense à la ménagère peut-être, là, puis c'est peut-être une figure qui n'est pas très actualisée, vous me direz. Là, mais je me dis, la femme au foyer ou la femme qui fait des vêtements parce qu'elle aime ça, c'est quoi ça? Décris-nous un petit peu ta clientèle, voir.
Ta clientèle, bien, d'ailleurs, comme vous disiez, les étudiants, c'est très important. Ils viennent tous. Toutes les écoles de mode viennent ici. Mais aussi, monsieur, madame, tout le monde, là. Tout le monde vient, là. Tu sais, un nettoyeur qui brise un bouton, il les envoie chez Rick Frax, là.
Ah oui?
T'sais? Ah, ben oui, les boutons, ça casse, hein, ça a une vie.
Ouais.
Tu sais, c'est Tu sais, un frigidaire, ça brise. Bien, souvent, les clients vont arriver et vont dire « Oh, le nettoyeur a brisé mon bouton, gna gna gna. » Mais non, mais oui, mais il y a une vie, ton bouton, là. Ça sèche, là, ça...
Comme
ça,
nous autres.
C'est ça, tu sais, je sais, un toaster, un frigidaire, ça brise un bouton.
Oui.
Mais on dirait que les gens sont attachés à un bouton. C'est comme si quand le bouton, il brise, « Oh mon Dieu, mon bouton! » Tu sais, mais non, mais c'est pas grave, on va en trouver un autre qui va être aussi beau. Mais il y a tous les gens, il y a tous les créateurs de costumes, le design de mode,
Puis là,
j'ai une clientèle très, très, très variée, là.
Puis j'imagine que les mados de ce monde doivent y aller beaucoup, là.
Oui, oui. Bien, moi, je les reconnais pas toujours.
Ah non, ils vont pas nécessairement.
Mais des fois,
non.
Oui. C'est sûr que c'est le fun quand je les reconnais, mais je veux dire, tout le monde, hein, le monde qui s'habille en général, le monde qui touche à une aiguille, fil à une aiguille, là, tu sais, qui aime aussi les gens qui viennent sont stylisés. Les gens qui viennent ici, ils ont du style. T'sais?
Oui.
Comme
toi.
Les gens aiment... T'es fine, merci. Mais écoute, moi, j'adore. T'sais, moi, je suis née là-dedans. Là,
oui, on le voit bien.
Moi, j'adore le vêtement. Je suis tombée dans la boîte de boutons, là, mais déjà avant... je m'habillais déjà. Là, j'ai toujours été...
Je t'ai connue au secondaire.
Ah, c'est vrai. Puis j'étais habillée. Bien, ma mère me faisait nos vêtements. Ma mère me faisait mes vêtements. Alors, écoute, j'ai toujours été habillée. Tu sais, j'adore.
J'ai le goût de t'amener ailleurs, là. Puis je ne sais pas si tu vas être aussi enthousiaste. Écoute, les villes reprochent au gouvernement provincial, que j'adore, n'est-ce pas, de ne pas tenir compte des difficultés auxquelles elles font face. Puis pour toi, là, puis pour Henri, puis pour toutes les entreprises indépendantes, là, qu'en est-il?
Pas facile. Je te dis déjà, en partant, c'est pas facile. Ce qu'on demande, c'est d'être non seulement consulté, mais écouté. Ça, c'est une autre affaire. Parce qu'ils disent qu'ils nous consultent, mais est-ce qu'ils nous écoutent? Parce que si là, les élus là, venaient passer juste une semaine avec un commerçant, là, ils pourraient comprendre la vie qu'on a et les charges et les responsabilités qu'on a, puis la vie qu'on fait. On donne beaucoup à la société. On embellit les quartiers. On donne du travail. On est un centre, tu sais.
Comme on disait au début, c'est l'âme d'un quartier, hein, ces petits commerces-là.
Exactement. Mm-hmm. Exactement. Et ça, j'ai l'impression que... Je m'excuse de le dire, mais ils sont... Même s'ils... Je pense qu'ils... Écoute, avec tout ce qu'il y a comme reportage, avec tout ce qu'il y a comme... J'en entends, moi, des journalistes puis des chroniqueurs en parler. Tout le monde le sait que les commerçants, on en arrache puis on a de la misère. Tu sais, les détours des rues, les non-stationnements, les vignettes. En tout cas, je pourrais en ajouter les travaux. Ça, là, il y a aussi la température, OK? Fait que, tu sais, je veux dire, il y a tout contre nous autres, là. On est comme dans un... Toujours, on est toujours confronté à un problème quelconque. Fait que, tu sais, à un moment donné...
Vous ne vous sentez pas épaulé par les villes, donc?
Pas du tout. Tu sais, c'est épuisant au bout du compte. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de commerce. Si leur plan fonctionnait, OK, si leur plan urbain fonctionnait, là, je vous dis, il n'y aurait pas un commerce à louer. Mm-hmm. Fait que, tu sais... Il y a une évidence qui est là. Puis s'il y a des commerces à louer, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Mm-hmm. Quelque chose qui ne va pas, là. Fait que, faut qu'ils commencent à en prendre. Faut qu'ils commencent à avoir cette vision-là. Je vois qu'ils ont une vision d'une ville. Je le vois, la vision de la ville qu'ils font. Mais les commerçants
c'est plus
sont
à large, peut-être. Moi, c'est ça. C'est pas,
les commerçants ne sont pas inclus.
Oui, c'est pas micro, c'est macro. Là, tout le temps, une vision macro. Henri, est-ce que Il y a Péril en la demeure chez Henri-Henri, ou mais pour l'instant, ça va, là?
Ben, Henri-Henri, j'aime dire que c'est un peu comme une exception qui tient toutes les autres règles ensemble. Mm-hmm. L'exception à beaucoup de règles, c'est Henri-Henri. C'est un commerce qui a parti en pleine dépression en 1932, mais qui dure encore aujourd'hui. C'est un magasin qui a vendu des articles considérés un peu démodé pendant des décennies, mais qui aujourd'hui est célébré pour tenir les mêmes styles puis avoir jamais dérogé à sa ligne. C'est un magasin qui s'est modernisé seulement quand c'était la dernière minute pour se moderniser, là. Je veux dire, okay. On a eu un site web magnifique pendant longtemps dans l'ère du 1.0 par un de mes anciens collègues, M. Philippe Robitaille, mais passé au commerce en ligne, on a attendu que... ça s'est fait pendant la pandémie. Mm-hmm. Le magasin se modernise, mais prend beaucoup de temps. Ce qu'on aimerait de la ville, ce serait un break de chantier sur Sainte-Catherine-Est. en ce moment, il n'y en a pas sur devant le magasin, là, mais les chantiers font beaucoup de mal. Au moins, on est entre deux métros, fait qu'on a toujours du trafic à pied pour avoir des clients qui rentrent. Juste par curiosité. Mm-hmm. Sinon, on aimerait bien ça se faire aider pour restaurer notre enseigne. C'est très compliqué d'avoir une enseigne là, à Montréal. On en a une super belle, grosse enseigne lumineuse, mais qu'on n'a pas les moyens de réparer pour toutes sortes de...
À la Archambault, là,
celle-là? Oui. Ben, si vous passez devant le commerce, vous regarderez. Elle n'est pas aussi énorme que celle du Archambault, mais certainement... Du même style.
Ouais, c'est ça.
Et on a beaucoup de misère à la réparer, non seulement parce qu'elle est vieille, mais aussi parce que...
le savoir-faire,
tout ce que ça, tout ce que ça demande comme permis pour faire fermer un coin de rue le temps que ce genre d'opération-là se passe. Fait que ce qu'on aimerait de la ville, c'est vraiment... Je pense que beaucoup d'autres commerçants demandent là, un break.
Ouais. Mais là, toi, tu as réussi, Juliette, avec ton bouton à faire quelque chose qui a fait sa marque dans le quartier. Là. C'est fou, là.
Ouais. Quand j'ai mis le bouton, ça a donné comme la raison d'être. Mm-hmm. C'est comme les gens ils ont compris qu'est-ce que c'était ici. Là, parce qu'ils disaient toujours, c'est quoi Rex Rax? Mais en mettant le bouton, ça a allumé la place. Ça a allumé le quartier aussi.
Oui, c'est ça. Mais tu sais, comme Henri-Henri est sur la rue Sainte-Catherine, il y a des passants. Mais toi...
Mais non, il a fallu que j'ai fasse lire, moi.
Oui, c'est ça.
Oui. Puis au début, j'ai été chanceuse. Il y a des gens, bon, tu sais, vu qu'il y a des gens du costume, puis il y a du monde de... Bon, ben, il y a eu des journalistes qui sont venus, j'ai eu des émissions de télévision, j'ai eu... Là, justement, je parlais des journaux, tu sais...
Puis là, t'es à Trait d'Union, ça va être hot, là!
Hey, je suis contente, merci, c'est super gentil de m'avoir choisi.
Non, ben,
non mais c'est sûr que les gens vont faire le détour, mais j'ai quand même besoin, même si je suis connue,
faut rappeler,
j'ai quand même besoin de l'accessibilité. Il faut quand même que les gens soient capables de se rendre.
Oui.
Parce que c'est pas tout le monde qui va prendre le métro. Il y en a qui vont venir en voiture s'ils viennent de loin.
Puis là, sur le plateau, c'est plus compliqué.
Exactement.
Ouais.
Exactement.
Ouais. Puis pour ce qui est d'un site web, est-ce que c'est envisageable dans ton domaine? Ben, puis j'imagine mal parce que toi tu conseilles les gens.
Ah, ben oui, c'est sûr.
C'est ça, hein?
Non, mais tu sais, je pense juste.
Là, le site web là, je dis un site web. C'est pas que j'en ai pas. J'ai un magnifique site web, extracts.ca. Sauf que moi, je ne peux pas vendre en ligne. On oublie ça.
Non, c'est ça.
J'ai trop d'inventaire, puis c'est une deuxième job, ça, là. Je pourrais pas être dans le commerce puis vendre en ligne.
C'est ça. Guillaume a quelque chose là-dessus. 24,
là. Mais non, mais même ça, puis même juste l'idée de poster les boutons, c'est comme... ça devient complexe quand même, là, à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qui prend énormément de temps.
Ben oui, c'est bien trop long, ça n'a pas de bon sens. Là. J'ai des milliers de boutons, calculer la quantité de boutons, puis à chaque fois, j'en ai un, gars. J'y ai déjà pensé une fois, je savais même pas par où commencer. Fait que j'ai du mal à répondre. Parce que je suis des folles.
Ah, c'est trop
juste de faire mon site web, là, je l'ai fait avec Roberto dans le temps qu'il était ici. Mm-hmm. Écoute, ça a été un 6 mois de travail, faire le site web.
Ben oui.
Si vous regardez le site, là. Puis, tu sais, on voit beaucoup de choses, mais c'est évident que je peux pas, même dans mon site web, tout n'est pas là. Ça fait déjà quelques années qu'il est fait, puis j'ose pas rentrer là-dedans, là, parce que aller rajouter des photos, rajouter des... Non, regarde. Moi, faut que moi, je présente à la clientèle. Moi, je suis ici pour la clientèle. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, quand j'achète du stock, faut que je le place, faut que... Ouais. Je veux dire, il y a énormément de travail à faire. Là,
oui, bien, faut aller voir tes vidéos, puis justement, te voir aller dans ta boutique. Il y a du travail, juste là, juste de tenir cette boutique-là. Écoute, il va falloir arrêter ça maintenant parce que l'émission s'achève. Et puis, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets. Oui. Est-ce que France, tu avais d'autres questions? Ou...
Non, c'était ma préoccupation première.
Puis, tu vas voir France en personne parce qu'elle va aller s'acheter des beaux boutons.
Oui.
Puis Guillaume, puis moi aussi, je vais y aller. Puis Francis va y aller.
J'ai des collègues qui y vont beaucoup. Monsieur Sylvain et ma collègue Marie, qui a étudié en design de mode, elle aussi, là, des grands clients, des clients chez Rixrax. Puis on recommande souvent à nos clients d'y aller pour...
J'ai une grande mémoire visuelle. Je reconnais toujours les gens.
Bon.
J'ai une mémoire photographique, comme on dit.
Oui. Bien, je te remercie beaucoup. Puis on va se revoir en vrai de vrai dans ta boutique Rixrax. Allez-y, tout le monde. Bon. C'est au coin de Guilford Saint-Hubert. On peut manger, on peut faire plein de trucs sur le plateau et aller magasiner à la mercerie Rixrax. Merci encore beaucoup, Juliette Trolio.
Super. Merci beaucoup à tous.
Bye-bye.
Bon week-end.
Sourire les gens, des mains qui se chantent, toutes les langues en même temps, elles sont comme de belles passantes, chaque rue les attend, des étrangères que tout le monde comprendrait, sur plus un télo désert que même les cons prendraient, de l'or au bout des doigts et tous les arts dans la tête, partir d'un bout de bois, bâtir une vieille forêt. Les artisans sont partisans d'un paradis du bon vieux temps. De l'or au bout des doigts et tous les arts dans la tête, partir d'un bout de bois, bâtir une vieille forêt en fait, partir au bout des doigts d'un et tous les arts dans la tête, reste et partir d'un bout de bois, bâtir une vieille forêt en fait.
Bon. Écoute, c'était Bazar et Bémol qui parlait des artisans, qui parlait du fait qu'il y a des gens qui, comme chez Henri, comme Juliette et comme les cordonniers, et comme tous ceux qui se passionnent pour le commerce dans lequel ils ont décidé de travailler ou qu'ils ont créé, qu'ils ont ouvert. Puis c'est important, ces gens-là, avoir un service particulier. Là, je m'en vais tout à fait ailleurs parce que je dois vous parler de la semaine prochaine où on reçoit les gens pour qui on va pouvoir parler de logement. Le logement à Montréal est un problème. À toutes les semaines, il y a des articles qui racontent l'histoire malheureuse d'un couple, d'une femme seule, d'une personne âgée qui se fait évincer. Évicté, évincé.
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 Oui, évincé.
On me dit que c'est évincé. Alors, la semaine prochaine, avec Andrés Fontecilla, qui représente Québec solidaire dans ce dossier, on a des gens de UTILE qui sont supposés d'être ici encore. C'est un organisme qui aide les étudiants à se trouver du logement. On pensait avoir quelqu'un de la ville, mais on n'a pas eu de retour d'appel parce qu'on veut savoir ce que la ville peut faire. C'est quoi les règles qui peuvent être établies pour aider les citoyens à se loger à Montréal et ailleurs au Québec même. Parce qu'il se passe en ville, à Montréal, ça se passe ailleurs.
Sûrement.
Hey, bonne fin de semaine. Le soleil n'est pas là, mais il fait beau. Bye!
Chat d'avance. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chat d'avance FM sur CIBL 101.5 Montréal.
Ici Maud Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal, Montréal.
Alors, ici c'est CIBL. On entre en onde.